Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine.
Je viens de découvrir qu'on est en direct.
Nous sommes en direct. Allez vous garder notre invité un petit peu, évidemment, la surprise pour plus tard, mais vous l'avez déjà dû. Notre invité du jour, vous l'avez reconnu tout de suite. C'est un grand enfant de 2m07, cheveux inclus, mais qui, bizarrement, en dépit de sa taille, n'a jamais vraiment grandi. Car sa folie naturelle, il n'a jamais réussi à la contenir, que ce soit sur scène, dans les spectacles, à couper le souffle ou même à la télévision. Et justement, cette année, ce magicien, toujours à la recherche de son peigne, nous a épaté avec un ovni télévisuel que personne, mais vraiment personne, n'attendait. Ce concours de construction où l'émotion et le suspense sont à la base d'édifices hors du commun. Bonjour Eric Antoine.
Bonjour.
Merci de nous rendre visite.
Mais c'est moi qui vous remercie, les amis, de m'accueillir. Non, mais je
veux dire
qu'on est en direct, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi. Tout ce que je vais. Rien ne sera coupé.
Rien.
Tout ce que. Oh, c'est génial.
Vous êtes en direct.
C'est génial. Quel bonheur.
Vous êtes là pour la finale de Lego Master. Ce sera ce soir à 21h05 hein, sur M6. C'est une compétition qu'on a découverte pendant les vacances où des binômes s'affrontent sur des épreuves où ils doivent composer des chefs-d'œuvre, composer des célèbres petites briques. Ils nous viennent du Danemark. Au cours de ces trois dernières semaines, on a découvert évidemment des parcs d'attraction, des ponts, des villes du futur. Mais ce qu'on a adoré, nous, personnellement, c'est la destruction des épreuves, notamment à coups de batte de baseball. Et on voit, Eric Antoine, que vous y avez pris un certain plaisir. Je voudrais savoir si c'était télévisuellement l'un des moments les plus jouissifs de votre carrière.
En tout cas, dans ce tournage-là, c'était un des moments les plus fantastiques parce que c'est des tournages qui sont très longs. On en parlait il y a quelques instants hors cam. Ouais. C'est des épreuves parfois de 24 heures. Donc ça dure sur 3 jours. C'est 3 fois 8 heures de construction. Les mecs sont en train de briquer pendant 8 heures. Moi, avant, j'ai les plateaux de présentation. Donc, une heure, c'est la moitié d'une émission, c'est 5 jours de tournage. Donc, quand je peux faire un truc, mais je suis tellement content. Et la batte de baseball, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, un accident qui est arrivé. J'ai raté la sculpture. C'est-à-dire quand ça ne se voit pas au montage.
Au premier coup,
je l'ai raté. Et en fait, on voit une marque sur la batte de baseball défoncée. En fait, j'ai tapé le plot. J'ai défoncé le plot en chaîne, ma stock. Et j'ai pris la sculpture en montant comme ça. Et j'ai eu la peur bleue parce que l'épreuve reposait aussi sur la destruction. Donc, si je détruisais mal les sculptures, donc la pression était sur mes épaules.
Mais est-ce qu'il n'y avait aucun pincement, que rien à détruire un truc que des gens ont mis des heures à construire? Vous n'avez pas eu un petit truc de remords?
Au début,
menteur,
oui,
je vous crois
mais
pas.
Ça n'a duré qu'un temps. Ce n'était que quelques secondes. Après, la jouissance a très vite pris le dessus. Mais c'est génial de détruire, parce que détruire, ça veut dire pouvoir reconstruire, recréer.
Bien sûr.
Et là, c'est ça aussi, ce jeu, c'est l'éphémère. Ce qui est beau, c'est l'éphémère. Bon, après, les adultes fans of Lego, comme on dit, ne détruisent pas en général.
Non, on est d'accord.
Et à la batte de baseball, jamais. Ça n'est jamais arrivé.
On est en direct, en vrai direct, hein, évidemment,
oui,
sur tma.com, sur lefigaro.fr et évidemment sur la page Facebook de TV Magazine, cette page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Eric Antoine. Il est là, n'hésitez pas, profitez-en. Qu'avez-vous pensé de cette émission? Avez-vous aimé ces destructions?
Juste pour te dire, j'ai été testé.
Oui, pas de souci. Moi aussi.
Voilà, mais j'ai été testé.
Tout va bien.
Et en plus, je l'ai eu. Donc, j'ai l'immunité.
Donc, vous avez l'immunité.
Si tu veux de mon sang, c'est un vaccin.
C'est vrai.
Mon sang est un vaccin.
On va le donner à Damien qui habite un peu dans l'Est. C'est un peu plus compliqué là-bas.
C'est vrai, Damien. Ah oui.
C'est chaud là en ce moment.
Eh bien, ami de l'Est, je vous fais don de mon sang.
Voilà. Est-ce que vous rêvez d'une saison 2? Est-ce que vous aimez regarder Eric Antoine, ses spectacles, ses émissions? Vous n'hésitez pas. Vos questions, vos remarques, vos suggestions. Il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez.
Que oui.
Salut Damien.
Salut Nicolas, salut Eric.
Ça va Damien?
Bah ça va pas mal.
On démarre tout de suite par les audiences d'hier soir.
Exactement.
Faites-nous le point qui est sur le podium.
Eh bien je vais vous faire rêver, c'est TF1 qui arrive en tête des audiences. Encore une fois de plus grâce à la fiction française, la chaîne poursuivait la 5e saison de Sam. Cette série portée par Natacha Lindinger et Fred Testo a rassemblé 4,5 millions de fidèles, ce qui représente 20% de part d'audience. C'est un score en hausse sur une semaine, donc belle opération pour TF1. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve France 2 qui misait elle aussi sur de la fiction, mais britannique cette fois-ci avec The Bay. 2,4 millions de téléspectateurs, 10,3% du public. France 3 enfile la médaille de bronze grâce à un nouveau numéro de Secrets d'Histoire consacré à la reine Elisabeth, reine de Belgique. Et enfin, on termine avec M6 qui échoue au pied du podium, malheureusement.
Aïe.
Ça arrive, Eric.
Oh, la famille.
Opération Renaissance, c'était le lancement avec Karine Le Marchand.
Émission pas facile, hein, évidemment, sur l'obésité morbide, comme on l'a
concept souligné, inédit à la télévision, M6 crée, mais voilà, parfois, ça arrive que ça soit pas forcément sur le
podium. Mal payé parce que ça a été un travail énorme de la part de Karine et de toutes les équipes sur plusieurs années.
C'est trois ans de tournage, en fait.
Absolument. Un vrai engagement, un vrai défi. Je suis assez triste, je dois vous dire, parce que je trouve que c'est un gros, gros boulot avec beaucoup de cœur, de générosité et de sincérité. Donc, c'est mal payé.
Justement, Damien, on va en parler de l'émission de Karine Le Marchand, Opération Renaissance, qui a fait polémique, c'était même avant même sa diffusion.
Ah oui, alors vous savez, Eric-Antoine, ce qui est fascinant avec les réseaux sociaux, c'est que certains internautes appellent désormais à boycotter les émissions avant même leur diffusion.
Oui, ils l'ont même pas vu.
Ils l'ont pas vu, mais il faut boycotter. C'est ce qu'il s'est passé.
Enfants. J'aime pas les carottes, mais t'as goûté ?
Non,
mais j'aime pas.
C'est exactement la même chose. Enfin, les carottes, c'est vrai que c'est assez spécial. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Opération Renaissance, émission produite donc par Karine Le Marchand, et qu'elle a lancé. C'est donc hier sur M6, l'animatrice de L'Amour est dans le Pré a accompagné, on le rappelle, pendant 3 ans, 10 patients en situation d'obésité morbide qui ont choisi de recourir à la chirurgie bariatrique. Alors l'idée de Karine Le Marchand, justement, c'était de soutenir ces personnes avec de nombreux spécialistes afin que leur reconstruction se passe dans les meilleures conditions, tant sur le plan physique que psychologique. Et on est donc dans une démarche de santé publique, on peut le dire, qui est assez loin finalement des concepts assez trash de la télévision américaine. Mais l'association Gras Politique n'est pas forcément de cette avis, elle l'a fait savoir à travers une tribune publiée dans Mediapart et signée par plus de 170 associations, le collectif qui a rassemblé de nombreux internautes. Derrière le hashtag « Pas ma renaissance » déplore une vitrine mensongère pour les chirurgies bariatriques. De son côté, Karine Le Marchand a réagi auprès de nos confrères de l'agence France Presse et a indiqué qu'elle n'avait rien à se reprocher.
Les réseaux sociaux, on le voit aujourd'hui, Eric-Antoine, ça devient des moyens de pression, de déstabilisation. Ils sont même instrumentalisés parfois par des associations qui n'hésitent pas à se jeter dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un créatif, vous créez sur scène, à la télévision, ça devient de plus en plus compliqué. On a l'impression que dès qu'on va créer quelque chose de nouveau, on va tout de suite se mettre des gens à dos.
En fait, il y a un souci de curiosité. Moi, c'est une des choses qui m'attriste le plus en ce moment, c'est le manque de curiosité pour l'inconnu. C'est-à-dire que, tu l'as dit, vous l'avez dit il y a un instant, Damien, c'est des gens qui n'ont pas vu l'émission, qui ne savent pas de quoi ça parle, qui ne savent pas comment c'est traité, qui sont déjà contre avant même que ça arrive. Donc, comment tu peux être contre quelque chose que tu ne connais pas? C'est une attitude.
On n'a pas vu, bien sûr.
C'est une attitude infantile. Moi, par exemple, on se rend compte aussi aujourd'hui, quand même, que toutes les théories du complot sont en train d'augmenter, mais que finalement, avec ces plateformes d'information géniales qu'est Internet, on est proche et on ne perçoit l'information que des gens qui sont déjà proches de nous. Ouais. Et on a tout le temps des tickets de convictions qui vont dans notre sens continuellement. Parce que les algorithmes d'Internet sont faits comme ça. Ils nous envoient tout à fait ce qu'on pense déjà et ce qu'on a déjà aimé. Donc finalement, on a tout le temps la conviction qu'on a raison. Et moi, je fais un exercice aujourd'hui, c'est que je vais toujours lire la presse avec laquelle, a priori, je ne suis pas d'accord. Donc, je me dis, tiens, quels sont les journalistes pour lesquels j'ai plutôt
une aversion.
On en fait partie, c'est ça.
Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je vais voir l'autre point de vue, celui que je ne connais pas. Et quels sont les chiffres de l'autre point de vue et quelles sont les bases informatives de l'autre point de vue. Et c'est un exercice que personne ne fait. Et on est de plus en plus, on le voit avec Trump et on le voit avec les gens qui sont convaincus parce qu'un type a dit c'est truqué, qu'il y a la presse qui est là qui dit c'est pas truqué, la justice est là, il dit c'est pas truqué, les instances démocratiques d'un pays entier disent c'est pas truqué, mais les mecs à 80% qui ont voté pour Trump pensent que c'est truqué. Donc il y a quand même, c'est une urgence d'éduquer les gens à s'informer autrement. Et c'est un drame. Et donc, pour moi, ça participe. Je n'ai pas vu l'émission de Karine, j'ai vu des extraits de l'émission de Karine, que j'ai trouvé brillant. Karine, elle a un sens de la psychologie, je pense qu'elle fait les choses avec sincérité.
Oui, et de l'empathie, en tout cas,
avec
c'est sûr.
Une vraie empathie, avec un vrai sujet, qui est un sujet grave. Moi, pour tout vous dire, j'étais à 145 kilos, j'ai dépassé l'obésité morbide. Donc, vous savez ce que c'est que l'obésité morbide, j'en ai souffert, et je pense que c'est des sujets qui sont importants à traiter. Et je vais regarder, vous savez quoi, juste par contradiction, je vais regarder ce qu'a fait Karine pour me faire mon idée. Voilà, et pas entendre 150 associations qui ont dit non alors qu'ils n'ont pas vu. Ouais. Voilà.
On termine ces infomédias, Damien, avec une nouvelle qui devrait réjouir
tous
les passionnés d'aventure à la télé.
Ah oui, on adore ça. Arthur, célèbre animateur, que l'on ne présente plus, mais surtout patron de la société de production Satisfaction, a annoncé samedi que sa boîte allait tourner la deuxième saison de District Z au printemps prochain. Alors, vous avez très certainement découvert cette émission au cours des dernières semaines sur TF1, où des célébrités plongées dans un décor lugubre doivent non seulement éviter des zombies, mais aussi relever des défis sous la houlette de l'inébranlable Denis Brogniard. Vendredi, la première chaîne a diffusé le cinquième et dernier épisode épisodes de la première saison. En moyenne, un peu plus de 3 millions de fidèles ont répondu présent, ce qui n'est pas un score dingue hein, pour la une. Voilà. Néanmoins, et vous le savez maintenant, puisque vous suivez le Buzz TV tous les jours, pour les chaînes privées, ce qui est important, c'est les scores sur les cibles commerciales. Et là, TF1 tire son épingle du jeu quand même sur la cible des fameuses ménagères que l'on dit aujourd'hui femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est un peu plus long. La chaîne affiche une moyenne de près de 32% de part d'audience, qui est un score là pour le coup honorable.
Et ce qui fait qu'il y aura effectivement une deuxième saison. Beaucoup ont trouvé qu'il y avait des similitudes entre Fort Boyard. Vous avez regardé District Z ?
Non, je n'ai pas regardé.
Et là-dessus, est-ce que pour vous, aujourd'hui, on a tout inventé à la télévision ? Arthur a quand même inventé un concept qui n'existait pas dans le monde. Il a même vendu, d'ailleurs, dans plusieurs pays.
Vous parlez de Vendredi, tout est permis ?
Oui, absolument. Ouais, ouais. Ou celle-là même de District Z, qui a été aussi vendue dans le monde. Mais on l'accuse de ressembler à Fort Boyard, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire une émission de télé sans être accusé de quoi que ce
soit ? Il y a eu enfin, les accusations de plagiat. On entend beaucoup parler aussi dans mon métier d'humoriste. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue... Moi, je suis fan de théâtre. Donc, on sait très bien, par exemple, que Molière a pompé des pans entiers de théâtre italien et de théâtre espagnol. Ouais. Et sans quoi, Molière n'existerait pas. On sait très bien que Shakespeare, c'est une association, sans doute, d'auteurs qui a... Donc, ce qui fait une grande œuvre... En tout cas, je vous parle là d'œuvre artistique. Ce qui fait une grande œuvre, c'est aussi... Picasso disait « l'artiste copie, le génie vole ».
Oui,
bon, donc,
Jobs aussi.
Donc, pour moi, il y a une limite éthique, elle doit être intérieure. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé mon métier, j'étais très proche des artistes américains que j'adorais, que je regardais avec des grands yeux. Et puis, au fur et à mesure de mon métier, j'ai trouvé mon style et j'ai trouvé une écriture, mes numéros. Donc, pour moi... La copie, elle doit avoir juste un temps. C'est-à-dire, elle doit être un temps, c'est quand tu démarres, tu es un jeune artiste, tu es un jeune créateur, tu t'inspires de... Et puis après, tu dois créer. Donc, pour moi, la création, elle est sans limite. C'est-à-dire que, normalement, tu peux faire des concepts sans pomper à côté. Mais ça se justifie sur un temps d'apprentissage. Mmh. Ça ne se justifie pas à partir d'un certain moment. Voilà.
C'est fini, Damien, pour aujourd'hui ?
Ah, moi, je peux encore pomper. Hein. Putain, je peux plagier.
Merci beaucoup. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos questions, nous sommes en direct avec Eric Antoine. Vous pouvez y aller. Feu. Éric-Antoine, seul face à vous, chers internautes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de laisser Éric-Antoine seul en direct. Avec des internautes, on va le voir.
Disparu.
On va le voir. Donc.
C'est votre meilleur tour, celui-là.
Je vole.
Vous avez un mix entre David Copperfield, Danny Larry et tout. Là, disparition extraordinaire.
On est bluffé, nous,
ici. Là, c'était plus du Danny Larry que du David Copperfield.
On parle de Lego Master, hein, la compétition que vous arbitrez chaque mardi à 21h05. Ce soir, ce sont les derniers candidats en lice pour remporter... Le titre, à quelques heures de la finale, quel adjectif utiliseriez-vous pour qualifier cette émission ? On a beaucoup parlé d'OVNI, on a tous été surpris par les audiences, vous aussi hein, d'ailleurs, dans le bon sens.
Ouais.
Lego Master, c'est quoi ? À l'heure du bilan aujourd'hui, vous diriez, c'est une expérience hors du commun ?
Ah ben, c'était une envie, en fait, il y a eu trois étapes. Il y a eu la découverte du concept que j'ai vu en Australie, aux États-Unis, et je suis tombé fou amoureux de l'émission. Ensuite,
Vous étiez fan de Lego ou pas ?
Je le suis depuis toujours. J'ai appelé toute la chaîne, les patrons de toutes les chaînes, les directeurs du divertissement. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi présenter cette émission. Je sais ce que c'est, je sens, j'aime tout ça. Et ils m'ont dit, ça tombe bien, on pensait à toi. Donc, génial. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, le tournage. J'ai un petit peu déchanté. Parce que sortais justement de Fort Boyard, j'avais une épaule démise, je venais de passer une nuit aux urgences, j'arrive sur le tournage, j'étais malade. Et 5 semaines avec des journées de tournage de 12 heures, les unes après les autres, qui s'enchaînent et tout ça. Donc là, je me suis dit, ah oui, quand même. Et puis, je sors de là. Et le programme, je pense que M6 l'a programmé au mieux, c'est-à-dire la période de Noël.
Ouais.
Je pense que c'était l'adéquation, les planètes sont alignées. Et puis le montage, la musique, le travail des éditeurs, de la narration est merveilleux. Est-ce que j'avais perçu des candidats sort à 100%. En fait, c'est ça que j'aime dans certaines émissions de télé, c'est que ça raconte la vérité. Ça raconte la vérité sur ce qui se passe, ça raconte la vérité sur les gens, ça raconte vraiment des passionnés. Donc il y a aussi, moi j'adore les passionnés. C'est ma passion, c'est les passions. Ouais. Et les obsédés aussi, qui sont comme ça, qui sont capables.
Il y en a quelques-uns.
Et je trouve que c'est merveilleux parce que, en plus, le jeu de Lego, le jeu de briques, c'est un jeu participatif comme il y en a très rarement. Quand tu joues au Monopoly avec tes enfants, tu ruines un enfant pour utiliser son pognon pour ruiner une seconde, tu vois. Et tu lui dis, non, chérie, tu n'as pas assez d'argent pour payer papa. Tu me vends aussi tes hôtels. Et c'est horrible.
Vous ne laissez pas gagner vos enfants, vous.
Jamais. Et alors que si tu joues au jeu de briques avec eux, c'est magnifique. Ouais. On construit ensemble un monde. On construit un monde rêvé. Il n'y a pas de limite à l'imagination. C'est participatif. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant. Il y a juste l'idée de créer ensemble. Et je trouve que les valeurs sont au bon endroit. C'est coloré. C'est festif. C'est familial. Je suis ravi. Évidemment, moi, j'espérais qu'on fasse 20% de part de marché. On parlait de Damien à l'instant. On est à plus de 30% sur certaines émissions, ce qui est
sur les cibles commerciales et importantes pour M6, évidemment. Ouais. Les émissions, pour ceux qui n'ont pas vu, ça s'articule autour de thèmes, un peu comme Le Meilleur Pâtissier, par exemple. Mmh. On a vu les parcs d'attractions, on a vu les machines à remonter dans le temps, les ponts. Ce soir, pour la finale, qu'est-ce que vous nous réservez?
Alors, il y a l'épreuve, il y a deux choses. Il y a un voyage dans le temps. Ouais. Donc, il y a quatre espaces gigantesques qui sont à construire. Et là, je crois que l'épreuve fait 15 heures, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y a l'épreuve, il y a l'espace préhistorique, il y a l'espace moyenâgeux, l'espace western et l'espace futuriste. Et donc, chaque binôme va tirer au hasard une épreuve. Et la deuxième épreuve, c'est la plus forte de toutes. C'est une épreuve de 24 heures et c'est page blanche.
D'accord.
Donc, à vous de jouer les
épreuves. Une vraie création.
Une création.
Et là, ils ont 24 heures.
C'est quasi non-stop ou... Alors non, c'est divisé en trois parties de 8 heures, donc parce que construire, déjà imaginez, ils vont poser 30-40 briques à la minute.
Ouais.
Donc c'est des milliers de briques en 8 heures, et puis ils n'en peuvent plus. Mais physiquement, c'est très difficile.
Donc
il y a vraiment une endurance aussi.
On sent plus ses doigts.
Ils ont de la corne au bout des doigts, ils sont en train d'appuyer. Tu sais, moi qui joue parfois de la musique et tout, au bout d'un moment, tu as de la corne. Ouais, Quand tu travailles vraiment avec les mains, au bout d'un moment, tu as mal. Quoi. Et donc il faut qu'ils se reposent un petit peu. Mais c'est sur 3 jours qu'ils construisent. Donc ce que vous allez voir ce soir, ça s'est passé sur quasiment 2 semaines. Et il y a 2 épreuves qui sont les dernières de ce jeu, de cette année.
Damien.
Oui, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le figaro.fr. On salue Patrick, Emma, Anne-Laure, Michel également. Beaucoup de gens. Il y a aussi Guillaume, tiens, qui était déjà là hier. Il est là aujourd'hui, super. C'est un fidèle.
Bonjour Guillaume.
Salut Guillaume. Et on va prendre une question d'Amandine qui souhaite savoir comment vous avez sélectionné.
Guillaume est au chômage, il est obligé d'aller le matin à 10h.
Pas du tout, il est au bureau, il regarde au bureau. Normalement, comme tout le monde.
Ça m'intéresse pas.
Tout le monde regarde au bureau.
Ah, mais ça, c'est le rêve, t'as le droit de regarder.
Donnez-nous le nom de l'entreprise, Guillaume. Ouais. Et on va poser une question d'Amandine qui souhaite savoir comment la sélection des candidats s'est déroulée en coulisses. Comment ça s'est passé?
Il y a eu une sélection par les directeurs de casting, comme pour toutes les émissions un peu dites télé-réalité.
Ouais.
C'est-à-dire que, mais sauf que là, ils ont été jaugés sur leur technicité et leur créativité narrative.
Ouais.
D'un côté, la technicité, c'était de construire avec des briques une sphère la plus parfaite possible. Et c'est toujours ce dilemme des constructeurs de briques, c'est comment on fait un rond avec un carré.
Avec un carré,
Et donc voilà, donc ça c'était une épreuve technique, et puis l'autre épreuve c'était de créer une histoire ensuite autour de cette sphère et de la faire vivre dans un temps donné. Et donc ils ont tous eu à faire cette épreuve, et c'est en fonction des résultats.
Il y a de nombreux candidats qui ont postulé pour cette émission.
Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que oui, de très nombreux ont postulé. Ouais. En fait, il y a beaucoup de clubs
De Lego,
Lego, donc ça a été envoyé à tous les clubs, donc tous les clubs se sont rués.
Bien sûr.
Et en tout cas, le niveau est assez exceptionnel, hein, que ce soit les papas belges, les geeks de la brique, les artistes déjantés. Est-ce qu'il y a un duo qui vous a particulièrement marqué, Eric, dans la saison, pour lequel vous avez un petit coup de cœur?
Oui. Marguerite et Renaud, c'est vrai que...
les artistes déjantés.
Ouais. C'est vrai que c'est ma cam, c'est comme ça aussi que j'ai été éduqué, c'est le genre de parcours qui se rapproche au mien. Donc
folie.
Voilà, ouais. Et puis le fait de tirer toujours, c'est ça, dans les côtés, c'est jamais, on leur donne un thème et ils sont dans le thème, mais ils sont à côté du thème en même temps. Il y a un décalage intellectuel qui me plaît beaucoup.
Alors évidemment, plus de 4 millions de téléspectateurs devant le premier épisode, ça a un petit peu baissé ensuite. Vous avez perdu plus d'un million et demi de téléspectateurs. Est-ce que ça vous inquiète pour le final ou est-ce que vous trouvez ça normal? Sachant que les replays fonctionnent très bien aussi. On est ensuite passé à la rentrée scolaire, donc il y a eu forcément mécaniquement moins d'enfants devant la télé.
Oui, on était, je crois, 4,2 millions, puis 4,7 millions. Donc la deuxième a augmenté. Et puis la troisième est passée à 2,7 ou 3, je ne sais plus.
Ouais.
Vous avez les chiffres.
Mais par contre, 2,7 millions, oui.
Mais les parts de marché sont restées. Donc, en fait, il y a eu beaucoup moins de monde devant la télévision. Nous, on a été très, très fort sur les familles et qui est le public. je dirais, le plus intéressant aujourd'hui, parce que la télé a plutôt tendance à vieillir, et on sait, la moyenne des chaînes est de plus en plus âgée, donc nous, on a besoin aussi de renouveler à la télévision notre public qui boude de plus en plus la télé. Donc c'est une émission qui est très forte pour ça, et on a vu que sur les familles, on est toujours les premiers, on est toujours premiers sur les moins de 50 ans, on est toujours premiers sur les enfants.
Fédérateur, c'est ce que cherchent vraiment les chaînes.
On n'est pas du tout inquiets, on trouve que c'est un vrai succès, malgré un score... objectif, enfin, en grand nombre, plus petit, mais c'est dû au moins de gens devant la télé.
Voilà. Damien.
Une question de Lilou. Est-ce que c'est vous qui êtes en charge de l'achat des briques? C'est vrai que c'est beaucoup, hein.
Non, lui, il les casse. Il est détruit à la
fin. Est-ce que vous avez un portefeuille garni, Eric Antoine, parce que ça
coûte cher? Non, mais vous savez que c'est...
On a vu que c'était énorme, les réserves de briques.
C'est 3 millions de briques, c'est énorme.
C'est monstrueux, vous stockez ça dans un hangar.
Ah, mais le studio est un hangar, et puis il y a la partie visible à l'intérieur du studio, et puis il y a tous les couloirs, en fait, le studio est entouré de couloirs, de briques classées par taille, par couleur, etc. Oui, c'est hyper impressionnant. Et ça a été, c'est la grande marque de briques à qui on a acheté les briques, puisqu'il n'y a aucun lien commercial entre la marque et la chaîne.
Vous ne citez jamais la marque, d'ailleurs, dans l'émission?
Non, j'essaie de ne pas la citer, parce que, justement, on veut que...
C'est une marque, de toute façon, tout le monde a la...
Ouais, tout le monde l'a, voilà, tout le monde sait ce que c'est, mais il y a d'autres marques de jeux de briques, il y en a plusieurs, donc voilà. Et donc, ça a été acheté par Conteneur, ça appartient maintenant à la production, Endemol Shine, qui a acheté ça, et qui espère bien les réutiliser, parce que le premier achat était très, très lourd. Et puis moi, qui suis aussi dans une pensée très écologiste, qui fait des choix du véganisme depuis 2 ans, enfin qui fait des choix comme ça. C'est vrai que ça a été pour moi un point d'achoppement, par exemple l'utilisation du plastique et donc des produits pétrochimiques. Et on voit que la marque, la grande marque, c'est une des premières et des plus innovatrices sur le fait de passer complètement hors de l'utilisation des produits pétrochimiques. Donc on va travailler sur du bambou, sur des plantes, etc. Ils sont dans une mutation qui est hyper intéressante et hyper rapide. C'est les plus rapides, les plus forts là-dessus. Donc c'est plein de petites choses, vous savez. C'est ça, c'est quand les briques sont au bon endroit et ça construit la bonne maison.
Voilà. Oh, c'est beau. Ouais.
Alors évidemment, la vie ne s'arrêtera pas à Lego Master pour Eric Antoine. On a fini La France a un incroyable talent il y a quelques semaines et vous jouez un spectacle intitulé Connexion jusqu'au 30 janvier 2021. C'est un show digital au cours duquel vous nous invitez chez les spectateurs. Oui. Comment est-ce que cette idée est venue, Eric? Alors, évidemment, parce que les théâtres sont fermés. C'est une évidence, mais évidemment. Comment on crée un spectacle 100% digital en s'invitant chez les gens?
Il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est le premier confinement où, comme beaucoup d'artistes, j'ai produit des vidéos sur YouTube, mais avec une valeur de production,
Ça a arrêté, vous étiez en tournée à ce moment-là, vous aviez des dates
J'étais en préparation d'un spectacle et je devais jouer Grandi un peu là. Normalement, j'aurais dû commencer à jouer depuis septembre dernier un nouveau spectacle.
Ouais, la rentrée dernière.
Voilà, et puis que j'avais repoussé là pour février, que je viens de repousser pour septembre. Et pendant la première vague, ce premier confinement, pour tout vous dire, j'avais aussi une double écriture. Enfin, quand j'écris un spectacle, souvent j'ai plusieurs autres spectacles sous la pédale et je me dis, tiens, quel est le bon thème aujourd'hui? Et j'avais un autre thème qui me touchait énormément et que je trouvais trop intime pour jouer dans des grandes salles, la notion de synchronicité, c'est-à-dire deux événements qui ont lieu en même temps, qui n'ont rien à voir et qui pourtant font sens pour nous. Tu sais, tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle et elle te dit exactement ce à quoi tu penses. Et il y a plein de moments dans ma vie où il y a eu des synchronicités absolument magiques. Et j'avais envie de parler de cette intimité-là dans des petites salles. Et puis ce spectacle-là, je me suis dit, en fait, si je rentre chez vous, eh ben vous allez rentrer dans mon intimité aussi. Donc je vais vous rentrer chez moi aussi. Et j'ai commencé à écrire un spectacle pour toute petite salle, sans penser qu'il allait devenir digital. Et après ce spectacle-là, j'ai commencé à découvrir les outils digitaux comme nous tous, les premières conférences Zoom, etc. Il y a un an de ça. Et je me suis dit, c'est un outil fantastique. C'est un outil génial. On peut voir jusqu'à 1000 personnes chez eux. On peut choisir la personne avec qui on peut interagir. On peut jouer avec une mosaïque entière de 50 foyers à qui on peut tous parler, qui peuvent nous faire des signes, des choses, des machins. Ils peuvent avoir des objets chez eux avec quoi je fais de la magie. Je peux avoir des objets chez moi sur lesquels ils interagissent. Et finalement, des gens aussi qui sont en confinement toute l'année, des gens en situation de handicap, des gens aussi qui n'ont pas les moyens, parce que le théâtre, c'est cher. Donc là, on peut être 6, 7, il y a des gens qui viennent à 10, 6 adultes et 4 enfants, ou qui invitent les voisins, etc., pour 25 balles, donc c'est à moins de 2 euros la place. Ouais. Ce n'est pas du tout la même dynamique. Donc il y a tout un tas de points. Je me suis dit, mais c'est fantastique, en fait, c'est un nouvel outil. Et ce qui m'étonne, c'est que je sois le premier et le seul à le faire, et encore le faire aujourd'hui. Là, j'ai lancé depuis le mois de décembre, on voit beaucoup de monde, on a déjà vu presque 40 000 personnes. Et
c'est quoi, c'est un problème de rentabilité pour lesquels les gens ne le font pas forcément?
C'est extrêmement cher, en fait, parce que voilà, moi, j'ai 10 techniciens pour avoir la qualité de production que je veux, les bonnes lumières, que c'est de la gueule, que ça soit aussi beau qu'un vrai spectacle, que ça soit aussi beau qu'une vraie émission télé. Les gens sont habitués à une qualité d'image, de changement de plan. Donc j'avais envie aussi de produire quelque chose qui soit généreux. Et comme on n'a aucune idée d'aussi ce que pouvait être un prix de billet, on n'a aucune idée. Donc on marche à tâtons, on est vraiment dans la forêt vierge, on explore. Et chaque arbre,
l'innovation.
On découvre soit un nouveau problème, soit une nouvelle qualité. J'ai des qualités extraordinaires. Des gens, par exemple, il y avait une prof du CNED qui me dit « J'ai jamais vu de spectacle vivant, je suis handicapé. C'est la première fois que je vois un spectacle, j'en ai pleuré aux larmes. » Des gens, j'envoie des tablettes avec mon association dans les chambres d'hôpitaux. Et donc, je sais que tous les enfants dans toutes les chambres me voient. Et en plus, je peux interagir avec eux directement. Ils font un tour de magie dans leur chambre. Donc, il y a des choses qui sont magnifiques. Et évidemment, la respiration du public me manque. C'est-à-dire que le rire, c'est quand même...
Ah oui, le rire, la présence.
C'est quand même sentir quelqu'un, une chair, il y a quelque chose de très charnel. Mais il y a autre chose, il y a un autre discours qui est en train de se créer, puis il y a des idées qui sont en train de me venir, et donc je crois que c'est ça, c'est de l'exploration. Donc je suis en train d'avancer pas à pas là-dedans. Donc j'attends que les copains arrivent, les autres artistes arrivent. Non, mais pour avoir des concurrents, pour avoir des copains, pour être plus fort.
Vous pensez que Connexion va faire des petits à l'heure de, effectivement, où on parle encore de plusieurs mois, voire peut-être 1, 2, 3 ans, ça s'imposera, vous pensez, ce genre de spectacles digitaux?
Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, au minimum des spectacles hybrides entre live et digital. En ce qui me concerne, par exemple, une salle de spectacle, si je vends moins de 80% des sièges, je perds de l'argent parce que j'ai toujours fait des spectacles qui sont très lourds avec des grosses équipes techniques. Donc, c'est des spectacles qui coûtent très cher. Et au jour d'aujourd'hui, même si ça réouvre à 50%, 60% de jauge, je ne peux pas jouer. Donc, je ne peux pas faire travailler mes équipes. Donc là, j'ai 25 intermittents, j'arrive à en faire travailler 10 en ce moment. Comment je fais pour faire travailler les 25? C'est difficile et je vois tous mes copains qui sont parfois dans des situations bien pires que ça. Mes potes, là, régisseurs, tout ça, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils font plein de petits boulots, plein de trucs pour nourrir la famille. Donc c'est dur. Hein. C'est une période, pour notre métier, c'est une période très, très, très difficile. Ouais. J'ai une chance folle, c'est que j'ai la télévision. Donc ça me permet de maintenir mes sociétés. Et sans quoi, ça aurait été une année catastrophique. Voilà.
Damien. Juste, je reviens sur la télévision, justement. Oui. Une question de Maurice qui aimerait savoir s'il y aura une deuxième saison de Lego Masters.
Je l'espère. Je l'espère fortement.
Fan de Lego, Maurice.
Vu les scores, il y a de grandes chances que ça se passe.
Oui, quand même.
C'est déjà signé, pas assez... Vous en avez discuté, vous
ça
avez
se
déjà...
discute en ce moment.
Ça discute en ce moment.
Ça discute en ce
d'accord.
Moment.
Mais c'est bien parti.
Oui, c'est très bien parti. Oui. C'est très bien parti. Sauf s'il y a une invasion de zombies l'année prochaine.
Il y a District Z qui revient, effectivement. Bah, voilà. Bien sûr.
Voilà. C'est ça.
Est-ce qu'il y a certaines compréhensions? Vous parliez vite, effectivement, de la difficulté de votre métier, beaucoup de vos collègues ou amis qui sont en difficulté. Est-ce que vous comprenez, comme l'a dit Laurent Ruquier dans son émission samedi soir, les incohérences, les incompréhensions, notamment en ce qui concerne les restrictions annoncées par le gouvernement sur les salles, sur le spectacle?
C'est extrêmement difficile. On sait une chose, c'est que... Enfin, moi, j'ai toujours été très, très, très fier de notre système de santé. Mmh. J'ai toujours été très fier de voir qu'encore aujourd'hui, on peut faire des tests PCR pour rien et qu'à côté, en Angleterre, ils doivent dépenser 100 pounds pour le faire, qu'ils ne les ont pas dans le même temps que nous, qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus cher aussi de se soigner. Donc, on a un système sanitaire qui est complexe, qui est à sa limite. On sait qu'on n'a pas assez de lits, on sait qu'il n'y a pas assez d'argent, on sait que les personnels ne sont pas assez bien payés, mais on a quand même un système de santé assez extraordinaire. Et donc, j'ai l'impression qu'on a un gouvernement... Enfin, ma sensation, c'est que ce sont des gens de... Il y a beaucoup de... C'est marrant, peut-être je suis un peu naïf et un peu couillon, mais j'ai l'impression que la plupart des gens sont des gens de bonne volonté qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et ils prennent les moins pires décisions. C'est vrai qu'il y a des incohérences. On se dit, mais pourquoi les théâtres? Il n'y a jamais eu aucun cluster. Ouais. On le sait dans toutes les études, il n'y a aucun cluster au théâtre. Les salles sont nettoyées, elles sont plutôt bien aérées, les distanciations sociales font que, et on ne réouvre pas les théâtres. Oui, mais OK, parce qu'on se dit, oui, mais il y a les transports en commun avant pour aller au théâtre, il y a après la soirée, il y a la réunion des gens. Donc, en effet, au sein du théâtre, non, mais il y a... Donc, tous ces arguments s'entendent. Il y a quand même presque 70 000 personnes qui sont décédées. C'est énorme. Moi, malheureusement, j'ai depuis très longtemps plus de famille plus âgée que moi. J'ai plus mes parents, j'ai plus mes grands-parents, mais je sais le drame que c'est que de perdre ses aînés. Et donc je ne peux pas dire autre chose que, bah oui, protégeons les vies des gens que nous aimons. C'est pas Je ne peux pas réfléchir autrement que comme ça. Donc, j'ai cette chance d'être dans une position très confortable parce que j'ai un de mes métiers qui continue à durer. Si j'avais zéro de mes métiers qui continue à durer, j'aurais peut-être un autre discours. Mmh. Voilà. Mais pour le moment, j'ai celui-là.
Damien, on prend une dernière question et on passe à la rubrique de fin.
Allez, on va prendre une question d'Adrien, cette fois-ci concernant la France, un incroyable talent. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous allez faire partie de la prochaine saison? La 16e, je crois.
J'aimerais
ça,
beaucoup.
Ça continue,
c'est en
hein.
discussion.
C'est pareil, c'est en discussion, mais c'est vrai, quelle belle émission. Pour moi,
ça
c'est...
repart, le même jury, toujours...
Je peux pas te dire, Olivier, mais a priori, oui, c'est une équipe qui gagne, quoi. Je trouve que Karine a fait un boulot merveilleux. Moi, je suis très pote avec David, qui a amené trouve une bonhomie, une sympathie. Il a une gentillesse. David Ginola, vraiment, David Ginola avait une gentillesse merveilleuse. Karine est arrivée. Karine, c'est la Rolls-Royce de l'animation. Elle te fait ça aux petits oignons. Elle a l'humour. Elle est déjantée. Elle aime les gens. Enfin, donc, moi, je trouve que c'est une équipe magnifique. Pierre-Antoine, le nouveau
président.
Damecourt. Sur la deuxième partie, moi, je militais pour que Jérôme Anthony revienne, qui a créé un style dans cette émission. J'ai très envie que Jérôme revienne. C'est Pierre-Antoine que je ne connaissais pas. Et il est rentré dans la famille, mais tout de suite, il est drôle, il est gentil, il est délirant, il est au 10e degré comme nous tous. Donc c'est, franchement, c'était une très belle équipe. J'aimerais que l'équipe ne bouge pas.
Que ça continue.
Voilà. J'aimerais.
Merci beaucoup Eric, on passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré salé. Sucré salé, c'est pas de la bouffe, c'est juste un petit teasing. Je vais vous faire deux propositions, c'est comme dans la vie. Et vous devez choisir, vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Si je vous
sucré.
Dis... plutôt Lego ou Playmobil.
Oh bah.
C'est facile.
Playmobil.
On s'y attendait.
Lego, évidemment.
Marianne James ou Hélène Segarra.
Oh, mais non. Non, je ne peux pas choisir.
Je vais passer une soirée avec l'une des deux.
Oh, mais non. Ah bah, non, les deux, l'une après l'autre.
Ça va, la santé.
Non,
hein,
mais Marianne, c'est l'histoire est géniale parce que Marianne, j'étais jeune homme et c'est le premier spectacle auquel j'ai invité ma sœur. Elle a joué un spectacle qui s'appelait Ultima Recital.
Oui. Pour moi, c'était une cantatrice.
Voilà, cantatrice folle. C'est ma grande sœur artistique. C'est-à-dire que vraiment, elle a une folie, elle est déjantée, elle a du verbe, elle part en vrille. Voilà. Et Hélène, elle a une sensibilité, elle a une gentillesse, elle a une douceur. Et elle joue souvent le premier degré parce que c'est son rôle. Mais elle a un humour complètement. Elle est pétée aussi, Hélène. Donc, non, c'est deux amis, c'est deux copines. On ne choisit pas entre deux.
On ne choisit pas entre deux. Très bien. Voilà. David Copperfield ou Harry Houdini? L'ancien
c'est
et le moderne,
hyper
on va dire.
Difficile aussi parce que Copperfield, pour moi, c'est le génie absolu qui a repris toutes les illusions qui ont existé au monde et qui les a fait mieux que tout le monde. Donc c'est extraordinaire. Et Houdini, c'est un précurseur en termes de pensée, c'est un précurseur intellectuel. Il avait une position aussi politique dans le monde, un discours. Ah, j'irais quand même Houdini parce que c'est la légende.
C'est la légende, absolument. Lego Master ou Incroyable Talent?
Si vous deviez... Oh,
Thomas Valentin, Nicolas Terneau vous appelle, vous dit, la saison prochaine, on ne peut en garder qu'une. Laquelle tu
penses? Déjà, je les insulte.
Oui, bon, ça, d'accord.
Alors, Nicolas, je le connais moins, mais je l'insulte quand même. Les deux sont sur des valeurs qui me sont tellement proches. En fait, les deux sont sur des valeurs de diversité, de joie, de créativité, de fête ensemble.
Bon, il y en a une à qui vous avez un historique, quoi.
Oui, un tout petit peu plus Incroyable Talent, oui. Parce que c'est plus l'artistique. Voilà.
Très bien, on passera le mot à Thomas Valentin. Donc, supprimer Lego Master.
Merde. Qui va animer Lego Master, là, sinon
magicien ou animateur, pour finir?
Oh, mais, alors, homme de scène, en fait, avant d'être... Ouais,
scène plutôt que télé, scène.
Oui. Pour moi, la télé a toujours été un moyen pour la scène, mais je vous avoue que j'ai la chance maintenant d'avoir connu trois bonheurs en télévision. Le premier, c'était Michel Drucker, où je me suis vraiment amusé pendant plusieurs années. Le deuxième, c'est Incroyable Talent. Et le troisième, maintenant, c'est Lego Master. Donc, c'est vrai que j'éprouve des vraies joies à faire ces programmes.
Mais la scène, votre métier de magicien.
La scène, écrire pendant des mois, un spectacle, des années, de penser, d'arriver, de répéter pendant des heures et des heures et de proposer ce truc ciselé qui est vraiment ton bébé à toi. C'est-à-dire, en scène, j'ai une maîtrise totale. En télévision, c'est le pour moi, la télévision, c'est le lieu de la production. C'est le lieu du producteur. Le producteur choisit ce qu'il veut raconter, fait ce qu'il veut.
Vous n'êtes que des jouets.
On est un mécanisme. L'animateur, le juré, c'est une part du mécanisme. C'est une brique. dans ce truc. Au cinéma, par exemple, bah, c'est le réalisateur. Au théâtre, c'est le performeur. Non, c'est le performeur. Le metteur en scène, quand une fois que c'est sur scène, il ne peut plus rien faire.
Oui, bien sûr.
C'est celui qui est sur scène qui dirige tout. Donc, c'est vraiment des lieux différents. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien être le boss. Donc, j'aime bien être sur scène.
Merci, Eric-Antoine. Merci. Le boss était avec nous ce matin. Je rappelle que vous animerez la finale de Lego Master. Ce sera ce soir à 21h05 sur M6. Et votre spectacle actuel digital hein, qui s'appelle Connexion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eric-Antoine.com.
Tout est sur ericantoine.com.
C'est là qu'on va trouver tout ça. Merci beaucoup, Eric. Damien, on sera là demain.
Oui, avec un visage d'antenne qui officie sur M6 parce qu'on ne se lasse pas de cette chaîne.
Ah, c'est encore M6 demain.
Mais demain, ce sera un journaliste qui présente le 19h45, 66 minutes. Vous le connaissez ? Ça vous dit quelque chose ?
On se croise de temps en temps. On ne se connaît pas bien.
Demain, nous recevrons Xavier Demoulin qui viendra également nous présenter son nouveau roman.
Ce sera dès demain à partir de 10h. Soyez au rendez-vous. Excellente journée à toutes et à tous.